L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui m'est cher, la bande dessinée. Alors, si vous ne connaissez rien à la BD, si vous voulez vous ouvrir au 9e art, découvrir les pépites de récits et d'illustrations qu'on trouve dans ce monde de plus en plus vaste de la bande dessinée, alors restez avec nous. Nous allons parler des grands mouvements de la BD, citer les plus grands noms et partager nos auteurs et nos œuvres favoris. Et je suis aujourd'hui avec deux invités de marque, puisqu'il s'agit de Geoffrey de l'émission Galéjade. Salut Geoffrey.
Salut Charlie.
Mais également de Fred de la librairie Bulle. Bonjour Fred.
Bonjour Charlie.
Et merci d'être avec nous tous les deux.
C'est un plaisir.
On commence sans plus attendre cette émission spéciale bande dessinée.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Et comment mieux ouvrir cette émission spéciale bande dessinée qu'avec la voix de Gottlieb en personne. C'est un hasard, hein, c'est mon jingle de tous les jours, hein, mais là pour le coup ça marche vraiment très bien. Mmh. Alors avant tout, il nous faut retracer les grandes lignes de l'histoire de la BD. Alors je m'occupe d'apporter quelques éléments d'introduction. On attribue l'invention de la BD à Rodolphe Töpffer, qui dans les années 1830 articule pour la première fois dessin et texte. On peut lire dans son histoire de Monsieur Jabot: les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte, sans les dessins ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d'autant plus original qui ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. Le style se développe durant tout le 19e siècle dans les journaux satiriques, puis c'est la naissance du comic strips aux USA qui devient un phénomène massif, tandis que la BD en Europe s'oriente plutôt vers un public d'enfants. Avec le développement de la BD en Europe et des comics aux USA, c'est au Japon également que la bande dessinée se développe à partir de 1950, notamment grâce à Osamu Tezuka, l'inventeur du manga moderne. Considérée comme infantile, mais trop violente, la BD fait l'objet de législations visant à sa régularisation, ce qui mène en fait la BD à se tourner vers un public plus adulte. En Europe, c'est Jean-Claude Forest qui redessine le paysage de la BD adulte, avec Barbarella notamment, qui ouvre la porte aux auteurs de BD de SF tels que Moebius. Au Japon, le mouvement Gekiga des années 60-70 reprend l'héritage de Tezuka, mais dessine des histoires plus sérieuses, plus dramatiques. Et quant aux États-Unis, les comics se développent dans le mouvement underground, la contre-culture, qui aborde des sujets censurés par les grandes maisons d'édition comme la drogue, le sexe ou la critique politique. Et on peut citer notamment Mouse d'Art Spiegelman. On reviendra plus en détail sur certains des points de cette histoire très condensée de la bande dessinée que je viens de faire. D'abord, je voudrais savoir, y a-t-il un champ de la BD que vous affectionnez plus que les autres? La BD franco-belge, le comics américain ou le manga japonais?
Tu veux que je commence, Fred? D'accord. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez éclectique, on va dire, dans le monde de la bande dessinée, puisque je lis à la fois du comics, du manga et du franco-belge.
Okay.
Donc, ce qui fait de moi quelqu'un qui connaît un peu tout, mais qui est expert en très peu de choses.
C'est le souci, ouais. C'est soit t'es généraliste et tu connais plein de choses, mais rien de très précis, soit t'es spécialisé, et puis là, tu en connais un rayon sur un truc en particulier. Mais du coup, t'es un généraliste.
Je suis généraliste, mais j'ai deux, trois petites pépites qui sont dans mes cartons que je maîtrise un peu mieux.
Okay.
On en parlera tout à l'heure.
Et Fred?
Moi, c'est un peu ça aussi. Hein. Je suis assez éclectique dans mes lectures, mais j'ai quand même plus de sensibilité sur le franco-belge, même si encore aujourd'hui, ça a encore du sens, mais c'est tellement éclaté que voilà. Du comics, j'en lis avec plaisir encore un peu, et du manga aussi, mais hélas, par manque de temps, je me concentre principalement sur ce qu'on va appeler le franco-belge.
D'accord. Oui, tu dis ce qu'on appelle le franco-belge, parce que c'est vrai que c'est peut-être une vision un peu ternaire, cette vision du monde de la BD, le franco-belge, le comics et le manga.
Oui, disons qu'à l'intérieur même de ces genres-là, en fait, on peut définir tellement de sous-genres que c'est un peu peut-être un peu réducteur, effectivement, de définir trois grandes lignées comme ça, parce que même pour le manga, en fait, on pourrait d'abord parler de bande dessinée asiatique, hein, parce qu'il y a le manga, il y a le manhwa, il y a la BD chinoise, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans le comics, évidemment, tu abordais tout à l'heure Mouse, comment comparer Mouse à Batman ou Superman,
ouais,
quoi.
Donc,
c'est plein de choses.
Et même sur le franco-belge, si on est très précis, il y a beaucoup d'auteurs de BD maintenant espagnols et italiennes qui sont sur le marché, qui représentent une bonne part d'activité, quoi.
Alors, on parlait de Mouse tout à l'heure, qui, pour moi, fait vraiment partie des grandes figures hein, de la bande dessinée. Vraiment une BD qui a marqué l'histoire de la BD.
La seule BD à avoir obtenu un prix Pulitzer.
C'est vrai.
C'est vrai ?
Oui.
D'accord.
Oui.
Eh ben, vous me l'apprenez, je ne savais pas. C'est la seule BD à avoir obtenu le prix Pulitzer. Ok. Est-ce qu'on peut en parler un peu d'ailleurs de Mouse très vite fait ?
Bah, c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein. C'est vrai que ça a, en plus... accélérer un petit peu, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui et depuis quelques années le roman graphique. Ça existait déjà, mais Mouse a popularisé ça un petit peu, et surtout avec une narration qui est extrêmement sensible, qui se passe, donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui reviennent sur le parcours du papa d'Art Spiegelman, donc qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration, et donc tout ça dessiné sous forme de fable un peu animalière, puisque les Allemands sont représentés par des chats, les Juifs par des souris, et puis il y a différents autres animaux qui interviennent dans cette histoire.
Geoffroy, tu voulais ajouter quelque chose ?
Honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je rajoute derrière ?
Alors du coup, on a parlé de Mouse, mais ce n'est pas la seule grande figure de la bande dessinée. Quelles ont été pour vous ces grandes figures qui ont fait une petite révolution dans l'histoire de la BD ?
Dans le classique, si on part sur le franco-belge, il y a bien sûr Hergé, qui est les pierres fondatrices.
Hergé, donc Tintin, quoi.
Ouais. Je précise même pas, ça me semble tellement logique, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont pas érudits au niveau de la BD.
Faut garder à l'esprit qu'on parle peut-être à des gens qui connaissent vraiment rien.
Ouais, mais t'as raison. Moi, ce qui me parle le plus derrière, ça va être donc la partie Franquin, notamment sur Spirou, qui est pour moi l'une des séries phares qu'il a reprise. Il n'a pas créé Spirou, ça faut qu'on soit bien clair sur le sujet. Et puis, dans les grandes pierres angulaires derrière, t'as toute l'équipe de Dupuis de cette période, et puis si t'avances dans les années 80, toute la génération Métal Hurlant qui a été un autre pan de la BD, quoi. Enfin, pour moi, après...
Et pour moi, alors je confirme effectivement tout ce que vient de dire Geoffrey, mais il y a eu un autre passage aussi, moi, qui m'a particulièrement chamboulé à l'époque et qui a vraiment formé une partie de ma culture BD, c'est l'arrivée aussi de plein de plus petits éditeurs qui arrivaient comme ça dans les années 90, notamment l'association qui a vu émerger des talents comme Johann Sfar, David Blin, Lewis Trondheim. Enfin, toute cette génération d'auteurs qui aujourd'hui ont signé chez des grands éditeurs, mais qui à l'époque ont commencé chez de petits éditeurs. Et pour moi, ça a vraiment marqué aussi un pas de la bande dessinée qui rentrait dans quelque chose de nouveau, qui proposait des formats et des genres très différents.
Et puis des styles de dessin qui étaient vraiment pas ceux qu'on connaissait habituellement sur la BD, quoi.
Ouais, complètement. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une espèce de cataclysme comme ça, mental. C'était vraiment, ça m'a vraiment vraiment bousculé.
Après, en tout cas, on est obligé de noter que, en tout cas, dans la BD franco-belge, il y a quand même des monstres sacrés. Oui. Donc on a parlé de Tintin de Hergé, mais il y a aussi Astérix de Goscinny et d'Erzo, ou encore Corto Maltese d'Hugo Pratt. Qu'est-ce qui fait le succès énorme de ces séries, selon vous, qui fait qu'elles sont encore lues aujourd'hui, et que concernant Astérix et Corto, d'ailleurs, de nouveaux albums sortent encore aujourd'hui?
C'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne Astérix Obélix, il faut savoir que ça reste aujourd'hui, à chaque nouvelle sortie d'un album d'Astérix, ça reste les meilleures ventes de livres en France. Je parle même pas de bande dessinée. Cette année, encore en 2023, donc avec la sortie du dernier tome, ça a été le livre le plus vendu en France. Donc c'est de vrais phénomènes de société. Et puis, c'est un succès qui ne se tarit pas, hein, parce que chaque fois, chaque nouvelle sortie, c'est la même chose. Et avec une créativité qui est quand même toujours à peu près au rendez-vous. Alors, avec des hauts et des bas, mais il y a quand même quelque chose.
Mais alors, qu'est-ce qui justifie ça, à votre avis ?
C'est quand même c'est là que ça devient super compliqué pour moi de répondre, parce qu'on va tous voir quelque chose de différent dans Astérix, comme dans Corto. Moi, je sais que Astérix, c'est un sujet que je maîtrise moins. Corto Maltese, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'était sur le côté aventurier, le côté rêveur. Enfin, tu lis un Corto Maltese, tu voyages. Corto, pour moi, c'est quoi à dire, mais c'est ce que j'aurais aimé être si j'avais vécu à cette période-là. Un grand aventurier, un peu romantique, charmeur, mais espiègle. Enfin, il a vraiment tout ce truc qui fait que...
C'est vraiment le héros type de l'époque, quoi.
Je sais pas si c'est le héros type de l'époque, mais c'est quelque chose, Enfin, quand tu vois le truc, enfin, je m'imagine plus facilement être Obélix aujourd'hui, en réalité, que Corto Maltese. Mais ouais, c'est l'image que j'avais de l'aventure, quoi, de ce que j'aurais aimé.
Et puis, il y a alors, un peu moins pour Corto peut-être, mais en tout cas, quand on reprend les Tintins, les Astérix, et tout ça, il y a quelque chose de complètement transgénérationnel. Donc, les parents mettent ça dans les mains de leurs enfants, les grands-parents mettent ça dans les mains des petits-enfants. Enfin, voilà, c'est... Et ça reste de l'album grand public qu'on peut retrouver aussi partout, qui est vendu évidemment en librairie spécialisée, mais qui est aussi vendu beaucoup en grande surface, donc ça touche un public très très large. Quoi.
Enfin, tu le dis, ça touche un public très large parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est là l'intelligence de ces grandes séries. C'est
qui que est souvent le cas des séries pour enfants, entre guillemets.
Ouais, voilà. Les enfants vont trouver leur compte, les adultes ils vont y trouver une autre histoire. Enfin non, c'est vraiment très intelligemment fait.
Alors je voudrais également revenir sur... du un peu moins grand public, sur les dessinateurs de la première heure de Fluide Glacial. Voilà, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Gottlieb, Edika, Foerster, Goossens, mais aussi sur L'écho des savanes, Villemain, tout ça. Bref, sur ces revues d'humour assez trash quand même. S'agit-il là pour vous de moments importants de la BD franco-belge?
Ben oui, parce qu'en fait, la BD franco-belge, en fait, elle a d'abord été distribuée en quelque sorte via les magazines. Donc, il y avait le magazine Tintin, Spirou, etc. Et puis, arrive dans les années 70, tous ces magazines qui, eux, s'adressaient plutôt à un public adulte, en fait. Et donc, ça a vraiment aussi créé un nouveau type de lectorat et voilà, quelque chose qui s'adressait de manière assez différente à un autre public, quoi.
Et puis c'était aussi l'arrivée de héros un petit peu moins, plus édulcorés, enfin beaucoup moins édulcorés. Oui. C'était moins les gendres idéaux quoi, qui débarquaient. Oui. Les gars, ils étaient là. C'était un petit peu un petit côté punk, j'ai envie de dire.
C'était souvent très amoral en fait. Hein. Ouais, il y avait ça. Beaucoup de cul. Hein. Ils adoraient dessiner des fesses. Ça,
c'était les années 70.
Est-ce qu'aujourd'hui ils réussiraient à faire la même chose? Je sais pas. Mais ouais, à l'époque, ils avaient ce côté provoque. Il y avait besoin de ce côté provoque qui n'existait pas quoi.
Moi, je trouve que la ligne éditoriale de Fluide Glacial a beaucoup changé depuis, effectivement.
Bah, de toute manière, il fallait qu'elle change. Elle ne pouvait pas rester non plus ancrée dans un passé comme ça, un peu idyllique, parce que, en plus, d'une, ça ne colle plus avec l'époque actuelle, et puis il fallait renouveler les codes, quoi, et les auteurs, parce que, comme tu le disais aussi tout à l'heure, il y a plein de ces auteurs qui ne sont soit plus là, soit qui ne dessinent plus. Ouais. Évidemment, on pense à Marcel Gottlieb en priorité, mais il a fallu renouveler un petit peu toute cette écurie Fluide Glacial et trouver des nouveaux talents, quoi.
Alors, il nous faut aussi évoquer toujours en Europe Moebius et les grands auteurs de la BD, qui constituent un univers à part entière. Enki Bilal, Drouillet, enfin tous les dessinateurs de la revue Métal Hurlant. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la bande dessinée, en fait?
Alors là, c'est...
c'est dans la droite lignée de ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire aussi s'adresser encore une fois à un autre public plus adulte, plus politisé aussi, quand on reprend les albums et les histoires d'Enki Bilal, par exemple. Qui lui a débarqué avec tout son passé aussi à lui, puisqu'il est d'origine serbo-croate. Enfin voilà, donc il a ramené aussi une partie de son vécu dans ses histoires. Donc tout ça, poussait vraiment la bande dessinée vers un nouveau discours, quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de lire dans les illustrés, comme on les appelait aussi un petit peu à l'époque, quoi.
Puis c'était l'avènement de la SF, j'ai envie de dire. Enfin, il y avait aux États-Unis, ça existait déjà depuis plusieurs années, mais en France, on n'avait pas de gros auteurs qui s'étaient lancés dans des sujets de science-fiction et qui savaient le ramener avec un côté justement politique pour nous ramener à quelque chose auquel le lecteur allait pouvoir s'identifier plus facilement.
Oui, puis au-delà du fond, moi je trouve que sur la forme, il y a une vraie révolution graphique en fait chez ces auteurs-là. Vraiment, ça devient vraiment des œuvres d'art, quoi, les planches de bande dessinée. Enfin, c'était déjà le cas avant, évidemment, mais ça claque beaucoup plus visiblement. Il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus d'inventions graphiques, je trouve aussi.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça, c'est vraiment, je pense, aussi l'arrivée de Moebius qui a un peu changé la donne. À tel point qu'aujourd'hui même encore, les planches ou les illustrations, que ce soit de Moebius ou d'Enki Bilal, se vendent dans des marchés d'art contemporain, non plus juste réservés à la bande dessinée. Donc c'est pour dire à quel point ça a ramené aussi un autre public aussi sur ne serait-ce que l'illustration et le marché. Quoi.
Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là, donc Enki Bilal continue de publier, Moebius, paix à son âme, Mais il a encore un impact fort sur, la société, puisque les États-Unis vont adapter l'Incal au cinéma.
Ah ouais?
Ouais, l'Incal, enfin, c'est Taika Waititi, et donc a réalisé les deux derniers Thor, et bon, qui sont pas terribles à mon goût, mais qui a réalisé aussi le très bon Jojo Rabbit. J'ai plus le nom avec la famille de vampires, mais c'est pas grave. Là, il va s'attaquer donc à ce phénomène qu'est l'Incal. Donc, comme quoi, il y a un impact fort dans les générations actuelles de ces gens-là aussi.
Alors enfin, pour en terminer avec l'Europe, il nous faut célébrer cette année le 100e anniversaire de quelqu'un dont tu as déjà parlé, Geoffrey, ouais. Franquin. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet auteur et son œuvre?
C'est un génie, quoi.
Ouais, son œuvre, bah, donc, comme je le disais, moi, Spirou, c'est vraiment... une des œuvres que je préfère en bande dessinée, c'est ouais, en francologie, c'est sans doute la série que je suis. Derrière, il faut quand même voir que le gars a inventé des toutes... Enfin, Spirou existait, mais il y avait Spirou, Fantasio. Je suis incapable de te sortir ce qui se passait avant que Franquin arrive sur Spirou et Fantasio. Il a créé Champignac, il a créé Le Village, Le Maire, il a créé le Marsupilami. Enfin... ses cotines, il a développé un univers tellement fou et qui est encore aujourd'hui utilisé par tous les repreneurs de Spirou et Fantasio. Il a créé le journal de Spirou, enfin, il a intégré le journal de Spirou dans Spirou, ou est-ce qu'il... Non, ça, je dis une bêtise, parce qu'il était déjà là avant. Mais il l'a vraiment repris en y ajoutant un personnage qui va devenir culte derrière, qui est Gaston Lagaffe.
Évidemment.
Gaston Lagaffe, d'ailleurs, le dernier album qui est sorti en fin d'année, et vous pouvez réécouter un replay d'une émission de Galéjade où j'ai interviewé Delaf, d'ailleurs. Enfin,
parce que Franquin ne dessine plus Gaston Lagaffe, il ne dessine plus du tout, puisque comme Marcel Gottlieb, il nous a quittés.
Ben oui, et c'est là que c'est impressionnant, parce que Franquin était vraiment un dieu de l'humour. Enfin, il avait un trait tellement dynamique, tellement expressif. Qu'en fait, il pouvait faire de n'importe quelle situation quelque chose qui vraiment vous faisait hurler de rire. Et à côté de ça, il était capable de sortir les idées noires, et qui vous plombait, alors qui était d'une drôlerie aussi incroyable, mais à côté de ça, qui était vraiment d'une noirceur incroyable. Et c'est pas pour rien que, en fait, Franquin
a fait des dépressions.
A fait énormément de dépressions. Et voilà, et c'était très compliqué sur ces dernières années, quoi.
Oui, c'est ça que j'aime beaucoup sur le personnage de Franquin. C'est vrai que a priori, on a plutôt l'impression d'un personnage rigolo avec Gaston Lagaffe, Spirou et tout ça. Et c'est vrai que derrière, il y a l'auteur des idées noires, quoi. Qu'effectivement, ça, il y avait beaucoup de choses qu'il travaillait, quoi. Et je trouve ça très beau, en fait, cet homme qui devait pas mal souffrir et qui arrivait quand même à sublimer ça dans l'humour. Et même dans l'idée noire, c'est toujours de l'humour. Et d'ailleurs... une prouesse graphique aussi, idée noire, parce qu'il y a une particularité, c'est que tout est en noir et blanc, et enfin c'est des aplats de noir, hein, je crois.
Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de nuance, c'est vraiment que du noir et que du blanc.
Donc pareil, très impressionnant ça aussi. Donc voilà, cette année le 100e anniversaire de Franquin, donc si vous ne connaissez pas, allez découvrir ses œuvres. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Ella Atone d'Amarea. Et en attendant Anna à Jean-Carmé le 15 mars, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Bernard Lavillier, Idées Noires.
Il se lève, c'est l'eau, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, il éteint la stéréo. Éteint le lampadaire. Éteint le plafonnier, éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgent et désirant une blonde décapitée dans sa décapotable. cauchemar. Highway, road trip, fumée noire. Une vente vorace tue au fond d'un couloir. T'en sors pas, cafard, bad trip, idée noire. Avalé par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire.
De retour dans l'amphi pour la suite de cette émission spéciale BD. Je suis toujours avec Geoffrey de Galéjade et Fred de la librairie Bulle. On a pas mal parlé de la BD franco-belge, on passe maintenant aux USA. L'âge d'or du comics commence dès la fin des années 30 avec des super-héros comme Superman, Batman ou Captain America. Tous ces personnages qui vont former l'univers Marvel et DC Comics ont cette particularité qu'ils sont repris par de nombreux auteurs. Différentes séries naissent autour d'eux. Ce qui a pu donner lieu à des concepts comme le multivers, qui exploitent désormais les franchises dans leurs films. Ce partage des héros entre diverses auteurs, est-ce que c'est quelque chose qui se voit moins en France, non?
Alors, ça se voit effectivement moins en France. C'est pas fait de la même manière, mais par contre, il y a aussi toute une mouvance en France d'auteurs qui vont reprendre quand même des personnages existants. On évoquait le Spirou de Franquin. Le Spirou a été repris par de nombreux auteurs, c'est par vrai. Exemple. Voilà, donc c'est la reprise et quelque chose qui existe avec la particularité d'être vraiment ancré dans le catalogue plutôt franco-belge, quoi.
Pour moi, la différence majeure, c'est que les personnages appartiennent aux maisons d'édition aux États-Unis. Hein, c'est-à-dire que le personnage de Batman appartient à DC Comics, Spider-Man appartient à Marvel. Et voilà, c'est des contrats. Les gens qui travaillent dessus savent qu'automatiquement, c'est pas le personnage ne leur appartient pas. On les paye pour une tâche. Et c'est tout, ça s'arrête juste à ça, quoi.
Mais du coup, ces personnages, ils s'inscrivent dans plusieurs séries qui se rencontrent pas forcément, en fait, quoi. Il y a potentiellement plusieurs lignes historiques de Batman, de Superman. Mmh. Ça, c'est ça qu'on voit pas forcément chez nous, quoi.
Et encore, pas tout à fait, puisque si on reprend le cas de Spirou, il y a la série classique avec les aventures de Spirou, et il y a la série parallèle, les Spirou vus par, où est-ce que chaque auteur s'approprie le personnage et en fait son histoire, notamment Lebeau et Philippi qui en ont fait un truc SF derrière. Donc non, il y a des choses qui existent en France, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, la particularité, c'est qu'ils réinventent très 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 régulièrement les origines story. Chaque auteur qui va s'intéresser à un personnage, si c'est un auteur qui est sur lequel on va déceler un potentiel fort. Et là, je pense notamment à Frank Miller sur Batman, qui était déjà très connu dans le monde indé. Quand il s'empare de Batman, c'est pour créer son Batman à lui, son univers à lui. Tout récemment, ces dernières années, on a Sean Murphy qui a fait la même chose avec son White Knight. On veut la vision. Enfin, là, on veut la vision de l'auteur sur ce personnage.
Mais du coup, rien n'est canon dans ces univers fictifs. Tout peut être malléable.
Alors, il y a des séries, y a du canon, comme tu dis. Il y a la série classique de Batman qui est en ce moment, qui était dessinée par Jorge Jiménez, un Espagnol qui a un talent mais phénoménal, qui lui fait la série canon. Et à côté, ouais, t'as quelques auteurs sur lesquels on leur laisse un petit peu la carte blanche de créer leur univers à eux.
D'accord.
Et ouais, ça donne des choses qui sont assez phénoménales.
Alors, autre singularité des comics de super-héros par rapport à la BD européenne, alors là, je reviens plus sur les premières heures du comics, hein, c'est le côté un peu propagandiste dans un contexte de guerre froide. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça ?
Bah, il y a eu, effectivement, on peut pas le nier, il y a eu ce côté-là il y a quand même un peu longtemps maintenant. Mais il y a aussi des auteurs qui ont vraiment fait exploser ça. Hein. Je pense notamment à Watchmen, enfin la série, ouais, enfin, la ouais. série Watchmen, qui a complètement justement est complètement sorti des canons traditionnels du super-héros propre et qui était là pour sauver l'Amérique triomphante. Mmh. Où là, on est vraiment avec les Watchmen dans une critique vraiment vraiment acerbe de la société américaine. Donc
parce que du coup, Watchmen, c'est quoi ? Je connais pas trop, moi.
Alors Watchmen, eh bien, on va retrouver une équipe de super-héros, mais qui sont plutôt sur le retour. Ils sont un peu en déchéance et ils vont devoir s'associer à nouveau pour aller revivre une aventure. Mmh. Sauf qu'en fait, on va découvrir derrière le passé de chacun de ces personnages des choses particulièrement troubles. Voilà, donc c'est...
Cette équipe se reconstruit suite au meurtre d'un d'entre eux, quoi.
Mmh.
Donc,
et la particularité, excuse-moi.
Ouais, vas-y.
La particularité, puisque c'est un peu le slogan des Watchmen, c'est Who Watches the Watchmen, c'est-à-dire qui surveille les gardiens. En gros, est-ce que les super-héros sont réellement là pour le bien de l'humanité ou est-ce qu'eux-mêmes doivent être surveillés de près pour pas qu'ils dérivent ?
Oui, il y a une métaphore assez claire, j'imagine, derrière, non ?
Bien sûr.
Ouais. Est-ce qui a amené aujourd'hui à une série comme The Boys ? Clairement, The Boys n'a rien. Enfin, c'est vraiment très très bien. Ça, ils ont poussé les curseurs encore plus loin, mais tout ça, on sent l'inspiration de Watchmen, on sent Alan Moore, enfin, on sent l'inspiration qu'ont eu les auteurs d'Alan Moore, quoi.
D'accord. Donc The Boys, pareil, des super-héros qui sont pas vraiment des héros, quoi.
C'est des héros, mais après, tout est sur la communication. C'est des héros qui bossent pour le privé, donc c'est une société qui est derrière et qui va en faire donc, la communication dont ils veulent faire, mais quand ils sont entre eux, c'est les pires horreurs, quoi.
Donc si les comics ont une tendance comment dire, au patriotisme exagéré, c'est plus le cas aujourd'hui, quoi.
Beaucoup moins. Et
c'était les contextes aussi qui étaient différents. Ouais. La Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, là maintenant, on est déjà, ça s'est un peu calmé tout ça.
Et il y a des choses assez rigolotes qui sont parues, par exemple le Superman Red Son qui voit ce personnage de Superman atterrir non pas en plein milieu des États-Unis, mais en plein milieu de la Russie communiste.
Ah oui, d'accord.
Et,
ouais,
et voilà, ça donne des clashs de culture qui sont assez intéressants et puis surtout assez drôles aussi, quoi.
C'est clair. Et puis bah, après, il y a aussi toute une partie plus indépendante du comics qui... Moi, je vais penser à une série que j'adore, et je sais pas si t'allais y venir, Charlie, mais je te coupe peut-être l'herbe sous le pied, s'appelle Hellblazer, qui raconte l'histoire de John Constantine, un magicien escroc, enfin, mais un vrai magicien, mais qui fait tout pour s'en sortir, donc il a peu de scrupules sur la mort de certains de ses amis, de gens qu'il le considère comme un ami, qu'il le considère, pardon, j'ai du mal à parler, mais ouais, non, l'un des meilleurs comics que j'ai lu, c'est justement un comics de Hellblazer qui est dessiné par Corben et au scénario Brian Azzarello, qui se passe en prison aux États-Unis, qui s'appelle Hard Times. Waouh, enfin, c'est noir, c'est sombre, ça t'emmène loin et c'est vraiment très 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 bien fait, quoi.
Oui, pour en avoir feuilleté quelques-uns, c'est vrai que visuellement ça claque. Ouais. Donc John Constantine, c'est une de tes figures préférées du comics ? Est-ce que vous en avez d'autres, des figures préférées comme ça ?
Bah, bien sûr, moi, il y a Batman. On va pas passer à côté.
Et moi, je suis assez attaché au personnage d'Alan Moore. Alors, on évoquait Watchmen, mais aussi V pour Vendetta.
Ouais,
ok.
Qui est pour moi, là aussi, un sommet vraiment de la contre-culture et qui est surtout extrêmement littéraire.
D'accord.
Qui est truffé de références littéraires, vraiment, du début à la fin. Et qui est une histoire invraisemblable. Alors, il y a eu un film, là aussi, qui a été réalisé, qui est largement en dessous du niveau de la BD, parce que, justement, loin d'être aussi littéraire que la BD, mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre absolu, quoi.
Et alors, Batman, c'est pareil, c'est pour le côté un peu sombre, torturé, tout ça ?
En fait, moi, j'ai eu des grandes périodes hein, dans le comics. Spider-Man, quand j'étais plus adolescent, Peter Parker, l'adolescent normal à qui il arrive la morsure d'araignée et qui par, je vais pas dire hasard, mais accident de la vie, il devient un super-héros. Un gars qui... Enfin voilà, c'est un gars lambda, il a une vie lambda et le soir, il est Spider-Man. Donc ça m'a parlé pendant mes années d'adolescence. Maintenant, Superman aussi, c'est le rôle modèle, quoi. C'est le sens moral, c'est... Mais quand tu vieillis, ouais, tu comprends beaucoup mieux le côté de Batman, l'enquêteur qu'il est, et le mec qui réfléchit au plan A, au plan B, au plan C. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui, c'est un super héros, mais je trouve que ça se, il y en a quand même certains qui en ont fait des choses qui se détachent énormément juste du super héros, quoi.
Puis c'est mec lambda aussi, avec un très gros compte en banque. Mais
ouais, non, il est pas du tout lambda pour moi, Bruce Wayne, hein, parce que clairement, un mec lambda, c'est un mec qui a pas fait d'effort pour avoir ce qu'il a. Bruce Wayne, ok, il a pas fait d'effort pour sa richesse, mais il a quand même passé des années à s'entraîner. Il a été, enfin voilà, il est pas arrivé là où il en est aujourd'hui juste par le hasard et la coïncidence. Hein.
Alors, toujours une particularité des comics, vous en avez parlé un petit peu à droite à gauche, c'est le lien très fort entre BD et adaptation cinématographique. C'est loin d'être aussi remarquable en Europe. Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle dans l'évolution de la BD américaine?
Je saurais pas trop dire. En tout cas, je sais que à chaque fois qu'un nouveau film sort, on voit débarquer en librairie toutes les licences derrière sur le personnage en question dont il a été question dans le film. Donc ça a un petit impact sur la remise en avant de quelques personnages vraiment importants des univers, soit DC, soit Marvel. Mais après, je sais pas trop dire sur le reste.
Je pense qu'il est maintenant, après 20 ans de films de super-héros, cet impact, il est beaucoup plus faible qu'il ne l'a été.
Ouais.
Il y a eu un nouveau lectorat. Enfin, moi, j'ai été geek avant que le terme soit cool. C'est-à-dire qu'au lycée, je lisais déjà Batman, Spider-Man, tout ça. Et j'ai entendu tous les mecs de ma classe se mettre à parler de Spider-Man quand il y a eu le film, notamment en 2002. Ou est-ce que là, d'un coup, c'était devenu cool de connaître Spider-Man et tout, et j'entendais des mecs qui se prenaient pour des références, alors que le seul truc qu'ils connaissaient de Spider-Man, c'était le film. Et t'es là, tu fais, ouais, non, mais Spider-Man, Peter Parker, son histoire d'amour avec Mary Jane, ouais, mais avant Mary Jane, il y a eu quelqu'un d'autre, et il a fallu attendre Gwen Stacy dans la deuxième trilogie pour qu'ils apprennent à la connaître.
Ah, t'étais le geek chiant qui corrigeait tout le monde, là.
Non, je les corrigeais même pas, parce que justement, je voulais pas être le mec chiant. Mais t'es là, tu fais le mec, essaye de briller en société sur un sujet qu'il maîtrise pas. J'avais pas la sensation de le maîtriser énormément, mais déjà plus que lui. Donc tu savais que le gars, c'était un peu... Ah.
Mais la BD US, ce ne sont pas seulement les comics de super-héros, ce sont aussi des cartoons. Les héros de Disney, Mickey, Donald, Picsou, etc. Mais aussi les Peanuts de Schultz ou encore Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Des BD pour enfants, mais qui sont assez subtils, voire philosophiques. Est-ce que ce sont des BD qui ont été importantes pour vous?
Alors, moi, je connais pas du tout cette partie-là.
Alors, moi, si, quand même, il y en a, si je devais en retenir un là-dedans, enfin, dans tout ce que tu as cité à l'instant, clairement, Calvin et Hobbes a été quelque chose. Alors, j'y suis venu un peu sur le tard, hein, j'ai pas grandi avec ça. Mais par contre, quand j'ai découvert ça, ça a été dingue, quoi. Enfin, cette espèce de philosophie à hauteur d'enfant, je trouve ça absolument remarquable. C'est génial, c'est d'une richesse et tout, c'est incroyable.
Puis oui, comme tu dis, comme on disait tout à l'heure, avec plusieurs niveaux de lecture, tout ça, là, pour le coup, Calvin Hobbes, ça se vérifie vraiment, parce que moi, pour le coup, j'ai grandi avec Calvin et Hobbes, et je m'y reporte de temps en temps, et à chaque relecture, on découvre de nouvelles choses, parce qu'on a pris de la maturité, mais ça se lit déjà très bien enfant, en fait. Quoi. Mais vraiment, c'est très intelligent comme BD, donc voilà, je conseille Calvin et Hobbes pour ceux qui ne conseillent pas, et en plus, graphiquement, c'est magnifique aussi. Au cours de l'évolution de la BD est apparu le terme de roman graphique. On l'a cité en tout début d'émission. Vous pouvez nous expliquer, est-ce qu'il y a une réalité de ce terme, comment dire, ou c'est juste un synonyme de BD?
C'est un terme qui porte un petit peu à polémique, qui a eu sans doute raison d'être dans les années 90, on va dire début 90 ou milieu des années 90. Aujourd'hui, la frontière entre le roman graphique et la bande dessinée, en fait, elle est extrêmement ténue. Hein. Enfin, c'est bien malin des fois celui qui sait dire entre deux albums s'il s'agit d'un roman graphique ou d'une bande dessinée. Ouais. Enfin, pour nous, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que ça a eu quand même raison d'être à un moment donné, parce que si on remonte un petit peu en arrière, dans les années 70 aussi, les éditions Casterman lancent leur magazine qui s'appelait À Suivre. Et À Suivre qui voulait justement proposer une lecture, encore une fois, une bande dessinée plutôt adulte avec, avec des séries comme ça qui s'adressaient à un autre public et qui vont notamment lancer des auteurs comme Jacques Tardy, Skuyten et Peters, Comès. Et en fait, c'est là où va quand même commencer à s'écrire le roman graphique. Le roman graphique, si on devait en donner un peu une définition aujourd'hui, ça serait quoi ? Ça serait juste, à l'époque, en tout cas dans les années 80-90, c'était un album qui avait un format un petit peu différent, qui sortait du traditionnel 48 pages en format classique, hein, comme un album de Tintin ou d'Astérix, et qui était donc avec une plus forte pagination, un peu plus ramassée sur le format, et avec, un récit plus adulte, quoi, plus complexe, voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, la bande dessinée a tellement évolué que, entre roman graphique et bande dessinée, franchement, c'est pas toujours.
Ça devient compliqué.
Il n'y a pas toujours de différence à faire, quoi.
Parce que, ouais, si je dis pas de bêtises, à l'époque, le roman graphique est apparu, tu le disais, 48 pages, 64 pages, c'était les contraintes scénaristiques qu'avaient tous les auteurs sur les BD classiques, parce que c'était des coûts financiers. Donc, ceux qui, quand ils avaient une histoire à raconter, qui voulaient quelque chose. S'ils voulaient sortir de ça, eh ben, malheureusement, ça devenait des romans graphiques. Et oui, souvent, c'était des histoires beaucoup plus matures.
Alors, on passe maintenant, si vous voulez bien, au Japon. Donc, au monde du manga et de la BD japonaise. On parlait tout à l'heure d'Osamu Tezuka, héritier des dessinateurs des revues satiriques d'avant-guerre, mais aussi inspiré par Walt Disney. Il crée tout simplement le manga moderne, en introduisant le mouvement, le cadrage, son dessin s'articulant toujours à une pratique du film d'animation. Son personnage le plus connu, c'est Astro Boy. Il ouvre la porte à des mangas plus dramatiques, plus adultes, les Gekiga. Et puis c'est l'arrivée de toutes les séries qu'on connaît aujourd'hui, la plupart popularisées à travers des magazines comme Jump, Dragon Ball, One Piece, Bleach, Naruto, Berserk, etc. etc. Alors est-ce que vous avez des séries de manga préférées ou d'autres aspects de la BD japonaise qui vous intéressent ?
Alors des séries de manga préférées, ouais, j'en ai quelques-unes. Hein. Alors il y a un manga que j'ai adoré, il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelle Beck, qui racontait l'histoire d'un jeune garçon qui découvrait un jeune japonais qui découvrait le rock et qui se lançait dans le rock, qui était vraiment extraordinaire, d'Harold Sakuyaki. Excusez-moi si je fais des fautes, mais Beck, B-E-C-K, vraiment très bien. Il y a GTO, que j'ai adoré aussi. Et ouais, enfin, j'en aurais tellement à dire, mais je vais passer trop de temps derrière le micro là si tu commences à vraiment me lancer là-dessus. Ouais,
j'avoue qu'on est un peu pressé.
Plus récemment, enfin, j'ai découvert un auteur, Takehiko Inoue, qui a fait Slam Dunk dans les années 90, qui ressort en ce moment en perfect édition, d'ailleurs, trouvable à la librairie Bulle. J'en ai déjà parlé dans l'émission, vraiment très bien, mais moi, ce qui m'a. Les mangas qui m'intéressent le plus, ça va être ces autres séries qu'il a fait derrière, à savoir Vagabond, l'adaptation libre de La Pierre et le Sabre, qui est vraiment magnifique, ne serait-ce que graphiquement, et l'histoire de ce samouraï, enfin de ce jeune homme qui veut devenir le meilleur sabreur du Japon est vraiment très bien. Et sa toute dernière série qui est en cours, qui s'appelle Reel, sur l'Andy Basket. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait fait verser une larme, et le tome 13 de Reel m'a fait vraiment verser une larme sur des trois jeunes personnes qui vivent tous avec des handicaps différents, physiques ou qui ont un traumatisme qu'ils ont vécu et qui les bloque aujourd'hui. Non, c'est vraiment très très fort. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en parler pendant des heures et ça va être un peu long pour Fred.
Fred, est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais parler?
Écoute, moi je suis un petit peu plus vieux aussi que Geoffrey, donc j'avoue que le manga j'en ai lu quand même pas mal à une époque, mais c'était pas encore, en tout cas pour moi, c'était pas encore l'époque des grandes séries. Je me suis jamais lancé, en plus pas par flemme, mais parce que j'avais pas envie de me lancer dans des séries trop longues, donc j'ai jamais trop accroché à toutes ces longues séries. Mais par contre,
petit clin d'œil à One Piece,
voilà,
plus de 100 tomes,
qui est très bien par ailleurs.
Oui, je suis d'accord.
Et du coup, je me suis plus plongé dans des choses qui pouvaient être un peu plus indépendantes, voilà. Ce qui fait qu'il y a des auteurs que j'aime beaucoup. Hein. Tu parlais de Tezuka, moi Tezuka, franchement, c'est pareil. Quand j'ai découvert ça, ça a été quand même une bonne claque, hein, parce que une fois que tu passes un petit peu le côté justement un peu enfantin qu'il peut y avoir sur certains titres, en fait, il y a des choses mais qui sont ultra trash, quoi. Enfin,
ah ouais.
Il y a certains, tu te rappelles de MW peut-être, Geoffrey? Non,
ça me parle pas, ça.
Enfin, c'est une histoire qui était, je crois, en 3 volumes et qui racontait l'histoire d'un prêtre qui se travestissait et qui faisait des trucs, mais pas possibles et pas nommables à la radio. Je te jure, c'était vraiment incroyable, quoi. Et en fait, il y a toute cette partie de Tezuka qui est un peu moins connue et pourtant qui est vraiment extraordinaire. Et voilà, donc moi c'est plutôt ce truc là qui m'a déclenché des trucs. J'aime bien il y a un auteur que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Kanuki, qui a sorti pas mal de séries, Bambi, qu'est-ce qu'il a sorti, Search and Destroy, enfin voilà, plein de choses, mais qui sont plutôt indépendantes et qui parfois sont pas sans rappeler un peu le cinéma de David Lynch, enfin voilà, des trucs un peu barrés. Donc ça me plaît vraiment beaucoup. Et puis, comment ne pas le citer aussi, parce que ça a été aussi le moment où on a vu le manga basculer aussi dans quelque chose là aussi de plus adulte. C'était l'arrivée de Jiro Taniguchi, quoi, avec Quartier Lointain et Le Journal de mon père. Donc ça a vraiment aussi été un espèce de cataclysme dans le monde de la BD et du manga.
Eh bien, merci beaucoup pour ces références. Petit fait intéressant, le shonen, le genre le plus populaire de manga, dans lequel s'inscrivent One Piece, Dragon Ball, Bleach, Naruto, Demon Slayer, Hunter x Hunter, Tokyo Ghoul, bref, toutes les séries les plus connues, on va dire. L'intrigue consiste en l'évolution du personnage principal guidé par un but unique et qui grandit de rencontre en rencontre, d'obstacle en obstacle. Et cette structure s'inspire directement d'un célèbre roman chinois médiéval qui s'appelle La Pérégrination vers l'Ouest de Wu Chengen, qui est absolument central dans la culture japonaise, dans la culture asiatique en fait en général, et dont le personnage principal est un singe, et dont Son Goku en fait est la référence directe. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Alors là encore, le manga est assez lié à son adaptation, cette fois en film d'animation. Par exemple, le manga Jojo's Bizarre Adventure doit sa notoriété essentiellement grâce à l'animé, tout comme l'attaque des titans, il me semble. Il se trouve qu'en fait, beaucoup de fans de manga en lisent en fait très peu et en regardent par contre beaucoup d'animés. Quel regard est-ce que vous portez sur ce phénomène ?
Sur ce phénomène
C'est vrai que ça c'est un vrai phénomène parce que ça a explosé depuis le développement des plateformes de streaming, hein, avec Netflix, Crunchyroll, enfin voilà, toutes ces plateformes. Non, alors en librairie, on a clairement vu la différence, mais plutôt au moment du confinement où il y a eu une explosion vraiment de la lecture du manga, qui était déjà quelque chose de très fort, hein, mais qui a vraiment, vraiment explosé, et qui était lié aussi à toutes ces séries animées qui passaient sur les plateformes, puisque certaines d'entre elles qui finissaient en plus, hein, parce que l'Attaque des Titans s'est fini peu de temps après, je crois, et...
C'est fini récemment, cette année,
là. Ouais, ouais. C'est 2023, cette année. Ça c'est fini.
Bon, enfin, en tout cas, il y a vraiment un lien de cause à effet, quand même, et le truc, c'est que là, justement, comme il y a de nombreuses séries qui s'arrêtent un petit peu, là, on voit aussi quel impact ça peut avoir à l'inverse sur les ventes de manga, c'est-à-dire que avec l'arrêt de certaines grandes séries animées, les ventes suivent pas forcément non plus derrière après.
Et puis le marché du manga, je trouve, et là c'est d'un point de vue clientèle, hein, je trouve que ces dernières années il s'est tellement développé qu'il est devenu surchargé à mon goût. Il publie tellement de choses que en tant que client tu peux pas tout acheter, et il y en a en quantité, c'est en quantitatif, c'est phénoménal. Tu peux pas tout lire. Tu fais des choix. Tu passes sans doute à côté de certaines petites pépites qui arrivent aujourd'hui. Et y a beaucoup de choses. Bah, pour un mec qui commence à lire des mangas depuis plusieurs années maintenant, on voit les inspirations et on se dit, bon, bah ça, on voit que c'est inspiré clairement de ça, de ça, de ça.
Alors, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça fait directement lien avec la suite. J'aimerais bien vous faire écouter un extrait de l'émission L'Amphi du 16 octobre où je me suis rendu à l'Aéroport, qui est un rendez-vous de bouquinistes, donc de vente de livres d'occasion. Et j'ai rencontré un marchand de BD ancienne. On va écouter son avis sur le monde de la BD d'hier et d'aujourd'hui.
Alors, c'est quel type de BD que vous avez ?
Alors, moi, je fais toute la BD, sauf celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne fais pas les mangas, je ne fais pas les BD d'aujourd'hui, parce que les dessinateurs me déçoivent un peu, surtout ceux qui ont repris Astérix. Mais ça, c'est mon avis personnel. Moi, j'ai travaillé avec Franquin, j'ai côtoyé Franquin, côtoyé Maurice, côtoyé Hergé une fois. J'ai fait de la bande dessinée amateur dans les années 70 avec les fanzines, avec Glénat avant qu'il soit éditeur. Donc tout ce monde-là, je le connais très bien. Je, J'ai une collection très très importante de bandes dessinées. Et voilà, donc je suis très bande dessinée âge d'or qu'on appelle. Mmh. C'est-à-dire que moi je suis né en 46, donc je suis tout ce qui est Tintin, Spirou, Journal de Mickey avant-guerre, Donald que j'ai là. J'ai des Donald, Tintin, Tintin avec dédicace d'Hergé, j'ai été Tintin en noir et blanc. Moi bon, voilà, c'est, je suis nostalgique de la BD ancienne.
Oui, en fait, vous avez un peu décroché même, depuis que la BD s'est très démocratisée, en fait, quoi.
Voilà, et si vous voulez, ne serait-ce que déjà dans l'impression de l'album, quand vous achetez un album aujourd'hui, vous sentez que c'est un papier. Bah, je suis peut-être un peu barjot, hein, comme dirait, mais non, moi j'aime bien le bon papier ancien, là, ou la bande BD ancienne, voilà, je suis comme ça.
Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette dichotomie qui est faite par ce marchand entre la vieille BD franco-belge et la BD contemporaine très diversifiée, peut-être trop diversifiée si on l'écoute?
Pardon, il y a une petite erreur là-dedans, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous dites que la personne en question a un peu lâché l'affaire à partir du moment où la BD s'est démocratisée. Moi, je crois que la BD, elle a jamais été aussi démocratisée qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, il y en a aujourd'hui pour tous les styles, tous les genres, pour tous les goûts. Enfin, le moindre sujet aujourd'hui, que ce soit d'actualité ou pas d'ailleurs, mais le moindre sujet peut faire l'objet d'une bande dessinée. Et c'est pour ça que souvent, les gens, quand ils disent « Ah, ben moi... je lis pas trop de bandes dessinées, j'aime pas trop ça. » Moi, alors je peux l'entendre évidemment, mais j'ai un peu de mal à comprendre parce qu'en fait aujourd'hui, réellement, il y en a pour tout le monde, quoi.
Puis le regard qu'il a en disant oui, c'était, enfin, moi ce que je retiens, ce que j'entends, c'est dit, c'était mieux avant.
Oui. Clairement, c'est le discours. Oui.
Moi, tu vois, je te disais sur le manga, je suis plus sur des séries qui ont une vingtaine d'années. Je vais pas dire que c'était mieux avant. Je dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses très bien qui sortent. Malheureusement, moi, je me reconnais pas dedans. Et la jeune génération se reconnaît dedans et c'est très, très bien et tant mieux. Mais il en faut pour tout le monde. Et c'est sûr que demain, il y a peut-être des choses qui vont parler à moi et qui parleront pas aux lecteurs d'aujourd'hui.
Mais là où on peut souligner ce qu'il dit quand même, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la BD, elle n'est plus limitée à quelques séries phares, mais à toute une profusion d'œuvres au thème, au style divers. Et est-ce que cette démocratisation de la BD, elle tend pas à la rendre médiocre? Ou au contraire, est-ce que vous considérez que nous vivons un nouvel âge d'or de la BD?
Ah non, médiocre, surtout pas.
Ouais.
qu'on vive un nouvel âge d'or, c'est possible, mais on a l'impression de se dire ça depuis tellement longtemps déjà qu'en fait, je sais plus, mais en tout cas, je pense qu'on vit quand même un vrai phénomène. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, il y a tellement de choses qui sortent. Alors, c'est un peu plus de 5000 titres par an qui sortent. Franchement, alors évidemment, tout n'est pas génialissime. Hein, on ne peut pas faire de l'angélisme non plus, hein, ça c'est clair. Mais quand même, parmi ces 5000 titres, qu'est-ce qu'il y a comme super chose, comme pépite, quoi. Enfin, c'est incroyable.
Puis ton sujet, là, nous emmènerait sur la condition de l'auteur aussi. Et ça serait un sujet qui est un peu trop long à débattre, là, dans le temps qui nous reste, je pense.
J'avais prévu un petit mot de la fin sur ce sujet-là, très rapidement, quoi. On va terminer cette émission en annonçant les prochaines sorties pour lesquelles vous êtes enthousiaste, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y en a dont vous voudriez nous parler?
Clairement.
Moi, il y en a une, je sais que tu vas en parler, Charlie, donc je vais pas spécialement en parler. Non, je vais parler d'une BD qui est sortie il y a quelques mois maintenant, que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça. J'ai rencontré les auteurs au festival d'Angoulême, qui s'appelle Contrition. C'est chez De Noël Graphics, si je dis pas de bêtises.
C'est bien ça.
Contrition, c'est un village aux États-Unis, enfin, c'est... Le village existe, il s'appelle pas Contrition, c'est un village où les criminels sexuels peuvent s'installer car ils sont éloignés de plus de 1000 pieds des écoles, des parcs. Enfin voilà, tous les pédophiles reconnus malheureusement peuvent s'installer dans ce village-là. Dans la BD, ils ont fait le choix de l'appeler Contrition. Et en fait, l'histoire démarre avec une mort et d'un de ces pédophiles. Et tu vas suivre l'enquête de la journaliste pour savoir si c'est accidentel ou criminel, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et honnêtement, ça m'a vraiment fort. J'ai trouvé vraiment très très bien fait cette BD.
Et Fred?
Écoute, je sais que tu vas en parler aussi, donc je vais te laisser la primeur sur ci. Mais c'est vrai que l'album dont il va être question, dont tu vas parler dans un instant, est extrêmement attendu et je pense que ça va être un petit chef-d'œuvre. Mais parmi, sinon, les autres choses à venir, en fin d'année, là, et même dans les mois à venir, hein, il va y avoir des choses assez extraordinaires. On attend la troisième caméra de Rodier qui avait signé La Bombe il y a quelques années chez Glénat et qui re-signe là chez Glénat. On attend aussi le nouveau Zanzime, Fred Zanzime,
oui.
Grand petit homme qui va sortir aussi chez Glénat, plutôt fin d'année. Qui avait fait Peau d'homme, hein, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la bande dessinée. Et puis plein d'autres choses, hein, évidemment, ça serait trop long de toutes les citer, mais on attend aussi pas mal d'un album qui va sortir chez Sarbacane en fin d'année, dessiné et scénarisé par les frères Harari et qui va s'appeler Le cas David Zimmerman.
Okay.
Voilà, donc quelques titres comme ça que je lance, mais il y en aura bien d'autres.
Alors pour ma part, du coup, hein, vous l'avez un peu teasé, je vous remercie de m'avoir laissé le privilège de l'annoncer. J'attends avec impatience La Route de Manu Larsonnet. C'était bien ça que vous attendiez,
évidemment.
Adapté du roman de Cormac McCarthy. Alors Manu Larsonnet, c'est mon auteur de BD préféré, en particulier pour son roman graphique en 4 tomes, Blast, dont je vous ai déjà parlé dans l'amphi. Et vraiment, La Route de Manu Larsonnet, visuellement, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de Blast et aussi un peu du rapport de Brodeck. J'ai vraiment suivi sa conception tout du long à travers son compte Instagram sur lequel il publierait régulièrement l'avancée de ses travaux. Et ça a l'air effectivement d'être un chef-d'œuvre, comme d'habitude.
Ouais. Et c'est ça qui est impressionnant avec Manu Larsonnet, c'est que non seulement à chaque fois il crée la surprise, mais en plus je trouve que graphiquement, il atteint à chaque fois un nouveau sommet et il ne fait que progresser. Et c'est vraiment
fabuleux.
Fabuleux, comme vous le dites. Ouais.
Et il a fait le choix d'ailleurs assez étonnant d'abandonner complètement le papier. Il travaille plus que sur tablette graphique depuis je ne sais pas exactement combien d'années, mais voilà, il touche plus au papier et du coup il expérimente que la tablette et il fait des trucs absolument dingues. Quoi.
C'est un beau mot de la fin, ça.
Ouais. Alors si vous voulez bien, un dernier petit mot de la fin très rapidement sur le monde professionnel de la BD. Quel avenir est-ce que vous entrevoyez? Et je voudrais préciser ma question. Avec le fait qu'on sait que les auteurs vivent déjà assez difficilement de leur travail, est-ce que vous êtes inquiet par exemple par l'arrivée des intelligences artificielles?
Oui, si elle n'est pas cadrée, je trouve que c'est obligé qu'il y en a certains qui vont s'engouffrer là-dedans pour se faciliter les choses, je pense.
Je sais pas, moi j'ai l'impression que ça, parce qu'il y a eu déjà quelques expérimentations qui ont été faites là ces derniers mois, et ça a été une telle levée de bouclier parmi les auteurs quand même que je suis pas sûr qu'il y ait tant d'éditeurs qui veuillent s'engouffrer là-dedans.
Je pense pas qu'ils vont vouloir le faire de manière officielle, mais derrière des hommes de paille, je serais pas surpris.
Ouais.
Ouais.
Bon, en tout cas, évidemment, ça a forcément un côté un peu inquiétant. Hein. On préfère, enfin, je veux dire, nous, ce qu'on prône, enfin, ce qu'on défend dans la bande dessinée, c'est justement la créativité, c'est la diversité, c'est tout ça. Donc, évidemment, on ne peut qu'être inquiet si toutefois l'intelligence artificielle venait mettre son nez là-dedans, puisque ça noirait un peu le côté artistique et, enfin, surtout créatif.
En fait, le problème, c'est que le côté purement artistique, c'est-à-dire ça demande beaucoup de travail,
on le sait,
et ce travail, il n'est pas récompensé à sa juste mesure, il me semble.
Alors, je pense que je vois quand même un point qui peut être positif sur les intelligences artificielles, voilà. à savoir, un auteur qui va écrire son scénario, potentiellement, peut avoir des idées de découpage différentes de ce qu'il va envisager s'il les soumet à une intelligence artificielle en termes de découpage. Il va potentiellement avoir son idée et un découpage qui peut lui être présenté par l'intelligence artificielle et là faire le truc de se dire « Ah ouais, ça j'avais pas pensé, ça rend mieux mon récit, donc... » Mais il faut que ça soit utilisé juste
comme un outil
pas comme...
Bon, il faut que cette émission s'achève. Je vous remercie beaucoup Geoffrey de Galéjade et Fred de la librairie Bulle pour être venu nous parler de bande dessinée dans l'amphi. Merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Merci encore et merci à vous d'avoir écouté l'amphi. On se retrouve ce mardi 5 mars pour parler de la prochaine édition des Carrefours de la Pensée sur Demain, comment habiter le monde, avec Jean-Philippe Melchior, président de l'association des Carrefours, ainsi que Mélanie Lebrun, membre du bureau des Carrefours de la Pensée. On sera également avec le photographe Réa Chiroudot. À bientôt dans l'amphi.
C'était l'amphi. L'émission étudiante.
Étudiante. Radio Alpa, l'alternative.